Virginie Rufenacht, invitée de Transparence, était ce midi sur notre antenne. La chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie est notamment revenue sur la visite sur le territoire de Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet. Extrait à retrouver en début de journal. Le FLNKS réaffirme qu'il est le seul interlocuteur portant la voix du peuple kanak. Une mise au point qui a eu lieu aujourd'hui, sans la présence de l'UPM et du Palika, qui ont décidé de prendre leur distance avec le parti. Après 6 mois d'arrêt, Prony Ressourcis relance ses activités en début de semaine prochaine. Une étape cruciale pour la société qui souhaite se réinventer en adaptant ses méthodes de travail. Lisée annonce des prix en augmentation pour le mois d'octobre. Parmi les secteurs les plus impactés, l'énergie et plus particulièrement l'électricité. De manière générale, aucun secteur n'est épargné. Et nous terminerons votre info soir avec, comme tous les vendredis, le programme festif et le programme sport de votre week-end. Des rendez-vous variés et passionnants. Bonsoir à tous, bienvenue dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Les élus calédoniens ont l'obsession de la recherche d'un accord qui est indispensable pour assurer l'avenir. C'est ce qu'affirme Virginie Rufenacht, qui était, je vous le disais, ce midi, l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Jean-François Baudin.
Le chef de groupe du Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et première vice-présidente du Congrès salue d'abord la visite des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Elle estime que Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet nous ont permis de prendre un peu de hauteur.
Je retiens qu'ils ont été capables, et ça n'était pas arrivé depuis des mois, à mettre finalement, au sein des groupes du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, tout le monde autour de la table, à échanger avec nous sur comment nous pourrions nous organiser pour effectivement nous donner toutes les chances de parvenir à dégager un accord à proposer aux Calédoniens. Et je retiens surtout, c'est important, et c'est l'urgence, qu'ils ont apporté leur soutien aux amendements que nous défendons à Paris dans le cadre du budget de la nation, de la loi de finances nationale, pour finalement mettre en place un plan pluriannuel urgent pour sauver la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens d'un effondrement total.
Concernant l'avenir institutionnel, Virginie Rufenacht est d'accord avec les présidents de chambre quand ils affirment que dans un premier temps, les élus calédoniens doivent être capables de travailler entre eux. C'est ce qu'ils font depuis des mois, déclare la chef de groupe du Rassemblement. Mais elle a aussi dit à Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet qu'il faut un projet fédérateur pour la Nouvelle-Calédonie. Auparavant, c'était le nickel. Elle est persuadée qu'aujourd'hui, ce projet fédérateur, c'est l'énergie.
Nous, on leur propose d'investir dans une structure d'énergie décarbonée à bas prix. Ça sauvera notre métallurgie du nickel et ça permettra à la Calédonie d'être extrêmement à nouveau compétitive et attractive pour l'implantation d'investisseurs et d'un développement à venir. Ça peut convenir aux indépendantistes parce qu'on va sur l'autonomie énergétique et donc économique de la Nouvelle-Calédonie. Et nous, ça nous convient parce que nous avons toujours été pour une plus grande autonomie économique. Aujourd'hui, nous sommes plus dépendants que jamais.
Interrogée sur le terme de souveraineté partagée utilisé par Gérard Larcher, Virginie Rufenacht souligne que l'expression existe déjà dans l'accord de Nouméa et qu'il faut dépasser les mots. Dans la perspective de la reprise des discussions sur l'avenir, elle insiste sur l'unité des partisans de la France.
Le rassemblement a un ADN. Il ne s'appelle pas rassemblement pour rien. Et nous, notre volonté, c'est qu'à la fois, bien sûr, du côté des partisans de la France, on arrive à parler d'une voix sur cet accord et donc à travailler tous ensemble pour proposer et mettre sur la table une proposition commune. Ça, c'est une première chose et c'est le travail qu'on engage avec Elsie Ponga depuis des semaines et des mois déjà. Ça n'est pas simple. Hein. Vous savez que c'est facile avec les loyalistes. Nous sommes très proches. C'est beaucoup plus compliqué avec Calédonie Ensemble. Mais on considère que l'intérêt général de la Nouvelle-Calédonie fait qu'on ne peut plus se battre chez les partisans de la France en permanence parce que nous sommes d'abord divisés face aux indépendantistes, mais de surcroît, nous sommes aussi vulnérables et pas crédibles face à l'État.
Et pour les discussions sur l'avenir institutionnel, Virginie Rufenacht affirme que tout le monde doit être autour de la table.
A-t-on véritablement le choix ? Vous savez, quand vous êtes dans une négociation, vous ne choisissez pas vos partenaires. Pourquoi vous ne les choisissez pas ? Parce que qu'il s'agisse de l'Union calédonienne ou de l'UNI qui regroupe le Palika, l'UPM, ils ont été élus démocratiquement. Ils sont représentatifs, ils correspondent à des milliers de Calédoniens. Est-ce qu'en excluant l'une de ces mouvances de nos négociations, on n'exclut pas des milliers de personnes en Nouvelle-Calédonie ? Et est-ce qu'on ne se heurte pas à revivre en fait ce qu'on vit en permanence ? Si vous voulez, nous on fait la différence entre le traitement judiciaire. Tous ceux qui ont commis des exactions dans le cadre des émeutes du 13 mai doivent rendre des comptes devant la justice et donc être jugés, sanctionnés le cas échéant. Ça, c'est une chose. Il faut bien faire la différence entre cela Il faut faire confiance à la justice pour faire ce traitement qui est laborieux, qui est long. Je t'ai moi-même entendu hier à la gendarmerie dans le cadre des enquêtes sur la CCAT. Mais dans le même temps, on ne peut pas exclure un mouvement politique des discussions sur l'avenir. Donc évidemment, nous travaillerons avec l'ensemble des forces représentatives de la Nouvelle-Calédonie. Et je veux penser aussi à l'éveil océanien qui est présent au Congrès aujourd'hui et qui joue un rôle au travers à la fois du président de l'éveil océanien, mais aussi finalement de la présidente du Congrès dans cette prise de responsabilité calédonienne pour proposer à l'État une méthode, un calendrier.
La chef de groupe du Rassemblement affirme être obsédée par la recherche de cet accord. Il n'y a que quelques mois pour le trouver. Et selon elle, le report des provinciales doit permettre une trêve.
Je souhaite que les Calédoniens bénéficient d'un accord parce que c'est notre planche de salut et que nous en avons besoin et qu'en même temps chacun assume ses actes. Puis vous savez, les choses, elles se règlent aussi lors des élections. Donc à un moment donné, le temps électoral reviendra. Nous, au niveau du Rassemblement, nous défendons une trêve de quelques mois. Nous avons 4 mois objectivement devant nous pour aller chercher cet accord, pas à n'importe quel prix. Pas dans le fait de renier l'expression démocratique, parce qu'il est hors de question de s'asseoir dessus. Ça, les Calédoniens doivent bien comprendre que nous n'aurons aucune lâcheté ou aucune faiblesse sur ce sujet. Mais pour autant, nous leur devons cet accord, c'est notre responsabilité. Et ça va au-dessus de l'intérêt de l'UC, ça va au-dessus, c'est l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie et des Calédoniens.
Mais pour qu'un accord soit possible, il faut que la sécurité soit assurée, déclare Virginie Rufnak, et aussi que la Calédonie soit sauvée économiquement. Elle rappelle qu'un accord a été trouvé entre le plan pluriannuel du Congrès et le PS2R du gouvernement. Et elle indique que la semaine dernière, le Congrès a proposé des amendements pour la loi de finances 2025 lors d'une réunion du comité interinstitutionnel. Dans ce contexte, elle regrette que le gouvernement fasse cavalier seul.
La présidente du Congrès a immédiatement écrit pour proposer donc que nous allions défendre ces amendements ensemble à Paris. Hélas, le président du gouvernement n'a jamais répondu à la présidente du Congrès. Louis Mapou n'a jamais répondu à Velma Falayo. Ce que l'on trouve très méprisant parce que dans cette phase, c'est une union sacrée que nous devons avoir. Nous devons refuser les demandes de l'État d'augmenter la pression fiscale de manière trop importante parce qu'il n'y a plus une personne qui est en capacité de payer en Nouvelle-Calédonie plus d'impôts. Aujourd'hui, presque 1000 entreprises sont au tapis du fait des exactions. La préoccupation majeure de ces entrepreneurs, c'est comment réassurer mon entreprise, comment être indemnisé par les assurances. Il y a des gens qui sont partis en masse ces derniers mois et ces dernières semaines. Nous ne sommes pas du tout en état d'aller augmenter la pression fiscale. Il faut donc résister de ce point de vue-là, parce que sinon, ça nous mettra définitivement en coupe réglée. Et en même temps, il faut être capables ensemble de dégager un plan de réforme que nous sommes capables de faire, notamment en matière d'économie qu'il faut absolument viser. Et ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire tous ensemble. Donc nous regrettons, le président du gouvernement est parti tout seul, sans le Congrès, alors que nous aurions pu sur cet événement, surtout que le Congrès avait fait toutes les démarches possibles pour nous réunir sur cette séquence.
Virginie Rufnak qui estime à 100 milliards de francs l'aide attendue de la part de l'État. Une interview qui est disponible en audio et vidéo sur notre site internet et qui sera rediffusée dimanche soir, juste après notre édition 17h45.
Le Palika dresse le bilan de son 49e congrès. Il était réuni ce week-end à la tribu de Païta, à Calagomène. Plusieurs motions ont été adoptées par les militants pour la stratégie du parti pour l'année 2025. De ce rendez-vous, on retiendra également que le Palika sort du bureau politique du FLNKS, une position prise en raison des tensions avec l'UC et le RDO qui se sont accentuées depuis le 13 mai, et surtout depuis le congrès du FLNKS à Koumac, au cours duquel notamment Christian Théin a été élu président du Front, en l'absence des deux composantes. Écoutez Judicaël Séléphène, le porte-parole du Palika.
Aujourd'hui, on considère qu'on a été mis à l'écart de l'organisation du FNKS. On poursuit, la décision qu'on a formulée, et on dit même qu'on se met en retrait de l'organisation du FNKS, car on ne se reconnaît pas dans les décisions qui ont été prises. Et on poursuit le travail que l'on a engagé avec le FNKS depuis 2023. On le poursuit sous la démarche d'Union nationale pour l'indépendance. Et si d'aventure les décisions du FNKS changeraient et correspondraient plus à notre état d'esprit, ou en tout cas le projet que l'on porte, oui, il y aura des possibilités de discussion. Mais aujourd'hui, compte tenu de la situation, on a décidé de porter ces deux gros chantiers sous la bannière unie, et on s'est engagé à communiquer auprès de la population sur le projet qu'on porte sous la bannière Union nationale pour l'indépendance.
Lors de son congrès, le PALICA a établi sa stratégie et ouvert deux chantiers.
Deux gros chantiers qu'il faut que l'on réussisse. Le plan de sortie de crise S2R, posé par le 17e gouvernement. Le second chantier, c'est la poursuite des négociations. Donc on a eu à examiner un rendu et un point de situation sur où est-ce qu'on en était rendu au niveau des discussions qui ont eu lieu pendant toute l'année 2023. Le résultat des discussions nous permet de dire qu'il y a des éléments qu'on a considérés comme fondamentaux dans la discussion, sont présents, il faut les poursuivre et discuter sur les points qui restent divergents pour pouvoir trouver un consensus là-dessus. Mais on ne part pas de zéro, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Pour cette année qui est devant nous, il y a la réussite des négociations qu'il faut réussir. S'ouvre ensuite une campagne de communication et de promotion de la solution qu'on aura trouvée auprès des Calédoniens, mais aussi auprès des parlementaires. Donc à la suite de ça, arrivent les échéances provinciales. Un élément déterminant, il faudra obtenir un rapport de force qui nous permettra de mettre en œuvre cet accord.
Le PALICA milite toujours pour l'indépendance en partenariat avec la France et souhaite travailler cette année sur la question de la citoyenneté, sur la période de transition et sur un nouveau référendum d'autodétermination. Et c'est dans ce contexte, Jean-François Bodin, que le FLNKS réaffirme qu'il est le seul interlocuteur portant la voix du peuple kanak.
Oui, et s'il a décidé de faire ce rappel aujourd'hui, ce n'est pas, affirme-t-il, par rapport aux tensions actuelles avec le PALICA ou l'UPM, mais parce que malgré ses demandes, le bureau politique du FLNKS n'a pas été invité à s'entretenir avec le ministre des Outre-mer lorsqu'il est venu au mois d'octobre, ni avec les membres de la mission d'information du Forum des îles du Pacifique, ni avec Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. Une stratégie de l'État, selon le bureau politique du FLNKS, que ne comprend pas Dominique Fauchy. Il est secrétaire général du LUCE, LUCE qui assure l'animation du bureau politique.
Le bureau politique a demandé à plusieurs fois à être reçu. On n'a pas eu de réponse en retour. C'est pour ça qu'on a souhaité raffermer le rôle historique du FLNKS depuis ces 40 dernières années, dans le cadre de la signature des accords de Matignon pour le retour à la paix, dans le cadre de la signature de l'accord de Nouméa, et dire que le FLNKS était là hier et là aujourd'hui, il sera là demain pour les négociations pour l'avenir du pays. Et réaffirmer que le FLNKS est le seul mouvement de libération représentant du peuple kanak, du peuple colonisé et des anticolonialistes dans ce pays, et qui va mener sa mission jusqu'au bout, jusqu'à l'acquisition du pays à la pleine souveraineté.
Aujourd'hui, il y a un peu de tirage au sein du bureau politique du FLNKS avec le PALICA et l'UPM. Est-ce que c'est un rapport avec cette réaffirmation, finalement, du rôle du FLNKS ?
Pas du tout. Je disais que c'était par rapport aux séquences de discussions qui sont passées. Là, aujourd'hui, on est dans la période des congrès de chacun. Chacun est libre de communiquer après ses congrès. Une fois que la période des congrès de chacun sera passée, on va réunir le congrès du FLNKS, justement, pour tout le monde sera invité. D'ailleurs, toutes les réunions du bureau politique du FLNKS, tout le monde est mis en copie, que ce soit le PALICA, l'UPM, même s'ils ne viennent pas. Ils sont toujours informés de ce qui se passe au sein du BP.
Aucun représentant de l'UPM ou du PALICA n'était donc présent pour cette mise au point du bureau politique du FLNKS. Il y avait en revanche des représentants de l'UC, du RDO, du Parti travailliste, de l'USTKE et de la DUS.
Et ce week-end, c'est le Parti travailliste qui tient son congrès. Il a lieu à Nouméa, vallée du Tir. Les discours d'ouverture sont prévus demain matin et le congrès doit se poursuivre tout le week-end.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, le FLNKS va-t-il survivre, selon vous, à ces tensions internes ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et la réponse à notre question d'hier, 94% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent choqués que la COP29, la 29e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, soit organisé à Bakou, en Azerbaïdjan. Ils ne sont que 6% que cela ne choque pas. En bref, le député européen Nicolas Bay arrive demain en Nouvelle-Calédonie et il y restera jusqu'à mercredi. Il était déjà venu sur le territoire il y a un an. Lors de son séjour, il aura divers entretiens pour évoquer la question institutionnelle et le dégel du corps électoral, la situation sécuritaire ou encore les conséquences économiques des émeutes. Lors des élections européennes de juin dernier, la liste conduite par Marion Maréchal et sur laquelle Nicolas Bay a été élu avait obtenu 16% des voix en Nouvelle-Calédonie. C'est ce qui justifie ce déplacement qu'il va effectuer sur le territoire. Il sera d'ailleurs notre invité du matin, lundi à 7h30. Et avant de marquer une première pause dans ce journal, on vient de l'apprendre, quelques incendies sont à signaler dans la zone VKP. À Vaux, les pompiers sont mobilisés sur un feu de brousse situé à la sortie nord du village. Ils bénéficient du renfort de la sécurité civile et d'un hélicoptère bombardier d'eau. Aucune habitation n'est menacée. Et puis à Conné, un important feu de brousse menaçait hier lotissement Bellevue. Ce matin, le feu a repris. Les pompiers sont sur place. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. 18h02, on va marquer une première petite page de publicité avant de voir tout le reste de l'actualité sur le territoire. A tout de suite.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange ? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne ? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pardouche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'InfoSoir, Léonard Colombo.
Oui, et Génération NC qui s'inquiète pour les électeurs de Nouméa. À la suite du travail mené par les commissions administratives, 5000 personnes ont été radiées des listes électorales. Pour la secrétaire générale de Génération NC, Cynthia Jean, il est donc essentiel et urgent que tous les électeurs de Nouméa se rendent sur le site électeurs-nc.fr pour vérifier qu'ils sont toujours bien inscrits.
5000 personnes viennent d'être radiées. A priori pour des adresses inexactes, mais on nous rapporte quand même le cas de personnes dont l'adresse est bonne, qui ont voté en 2022 ou en 2024 et qui ont été quand même radiées. Donc on invite vraiment chacun d'entre eux à aller vérifier son inscription sur les listes électorales. On a voulu tirer cette sonnette d'alarme parce que les démarches doivent être faites absolument avant le 31 décembre. Sinon, ces personnes ne sont tout simplement plus inscrites sur les listes électorales. Si elles ne font pas ces démarches avant le 31 décembre, eh bien, elles ne pourront pas voter durant toute l'année 2025.
Et lancé selon la loi votée dernièrement par le Parlement, que les élections provinciales doivent se tenir avant fin novembre 2025 et que pour pouvoir être inscrit sur la liste spéciale provinciale, il faut être inscrit sur la liste générale. Pour accompagner les électeurs qui le souhaitent et notamment les électeurs radiés qui souhaitent se réinscrire, Génération NC ouvre spécialement sa permanence au centre-ville de Nouméa les mercredis et vendredis de 11h à 15h et ouvre aussi deux numéros de téléphone dédiés, le 73 88 20, 73 88 20 et le 79 64 02, 79 64 02. Dans le reste de l'actualité sur le territoire, les équipes de Prony Ressourcise remobilisées dès ce lundi. Après 6 mois d'arrêt, la société annonce dans un communiqué le retour opérationnel de l'électricité et l'accès à l'eau brute sur leur site. Une étape cruciale pour Prony qui souhaite, je cite, « aborder cette nouvelle phase avec un esprit de cohésion et de réinvention ». L'entreprise qui gère l'usine du Sud s'engage dans un changement stratégique pour pérenniser ses activités et contribuer à la transition énergétique mondiale. Cette remobilisation implique une adaptation des méthodes de travail pour mieux maîtriser les coûts et renforcer la compétitivité, peut-on lire dans ce communiqué. En bref, toujours, Théophile Delassus n'est plus, depuis hier, directeur de cabinet du haut-commissaire. Le décret du président de la République a été publié hier, le 14 novembre, et stipule qu'il a été mis fin à sa demande, à ses fonctions. Théophile Delassus, qui est resté 22 mois en poste sur le territoire, va rejoindre l'administration centrale du ministère de l'Intérieur. Il devrait quitter le territoire en fin de semaine prochaine. L'Université de la Nouvelle-Calédonie vient de mener, avec ses autorités de tutelle, un important travail d'évaluation de son activité et de sa gestion. Un travail qui a permis à la Cour des comptes, qui vient de mener une série de contrôles et d'enquêtes sur l'enseignement supérieur et la recherche dans les Outre-mer, d'examiner la gestion de l'UNC, Jean-François Baudin.
Et cette évaluation a permis de constater que la stratégie développée par l'Université en Nouvelle-Calédonie est la bonne, même si elle est perfectible. L'Université peut se targuer d'une bonne gestion. C'est l'un des points soulignés par le rapport de la Cour des comptes, nous a dit la présidente de l'UNC, Catherine Riss.
Les points positifs qui ont été mis en évidence par le rapport, je reprend la formulation des magistrats, ils parlent d'une gestion comptable de qualité, d'une solidité comptable, d'une situation financière saine, d'indicateurs financiers robustes, d'une gestion immobilière rigoureuse, d'une maîtrise de l'évolution des emplois et de la masse salariale par un pilotage efficace de l'établissement. Donc tout ça, effectivement, c'est des choses qui sont positives et qui, bien sûr, mettent en valeur le travail de l'ensemble des membres de l'université. C'est une reconnaissance précieuse pour la communauté universitaire de voir que son travail est valorisé et qu'il est de qualité.
La Cour des comptes fait aussi, et c'est son rôle, des préconisations.
Il y en a 6 dans le rapport, mais de façon globale, en fait, ça porte essentiellement sur le renforcement des processus de traçabilité et d'évaluation de nos actions. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de choses en place. L'université a été lauréate avec succès de nombreux appels à projets, donc des projets qui se mettent en place, des financements qui les accompagnent. Et là, ce qui nous est conseillé, c'est d'augmenter les processus d'évaluation en fait, de l'ensemble de nos actions.
Et les retours sur l'évaluation de l'université sont donc bons. Et avant même qu'ils soient scrutés par la Cour des comptes, ce travail a permis en interne de faire bouger les choses, nous a encore expliqué Catherine Riss.
Pour nous, ça a été important parce que ça nous a permis aussi de faire le point sur notre système d'information, notamment, que ce soit les informations financières, les informations de scolarité, et puis de faire le point de l'évolution de l'établissement sur les 10 dernières années, même si on va dire, le contrôle ne comptait que sur 4 années. Ça a été un travail très lourd, mais un travail très intéressant pour l'établissement. Et puis, bien sûr, le rapport qui a été livré, les préconisations, ben, nous aident à améliorer encore toujours nos démarches, nos actions, l'efficacité de nos actions.
En tout cas, ce travail mené conduit l'université à s'inscrire dans une certaine continuité.
On n'est pas sur une révision de notre stratégie parce que le rapport ne nous y engage pas. Au contraire, il nous conforte dans la stratégie dans laquelle s'inscrit l'université depuis ces dernières années. Donc, on maintient notre stratégie. Les recommandations portent vraiment sur des dispositifs très ponctuels. Certaines des recommandations, d'ailleurs, ont déjà été mises en œuvre. En tout cas, les actions ont été mises en œuvre pour suivre ces recommandations. Il s'agit d'un pilotage de la recherche, d'un accompagnement de la recherche plus efficace. Voilà, on est sur des, j'ai envie de dire, des points de détails, des gros détails, mais on n'est pas sur la stratégie, la remise en cause de la stratégie de l'université, absolument pas. Au contraire, on est dans une confortation, pourrait dire, de cette stratégie d'après les magistrats.
Et en complément de ce rapport de la Cour des comptes, la Chambre territoriale des comptes a, elle, mené un travail sur l'ADECAL, l'Agence de développement économique de la Nouvelle-Calédonie, un établissement dont la mission, pour faire bref, est de transposer les connaissances théoriques en projets industriels et commerciaux concrets, l'amélioration de la gouvernance de l'ADECAL ainsi qu'une meilleure intégration au sein de l'écosystème de la recherche et du monde économique sont essentielles pour son développement, note notamment la Chambre territoriale des comptes.
RRB 18h09.
Économie et a pris une baisse de 0,5%. En septembre, l'ISEE annonce un indice des prix en hausse pour le mois d'octobre. L'Institut note une augmentation de 0,7% sur un mois, Jean-François.
Oui, et c'est en grande partie parce que le prix de l'énergie a bondi, plus 2,7% au mois d'octobre, après une première hausse de 0,7% au mois de septembre. Cette évolution est essentiellement portée par l'augmentation notable de l'électricité, plus 10,1%. On se souvient en effet que le Congrès a adopté 3 augmentations successives, les 1er octobre 2024, 2025 et 2026, pour rééquilibrer les recettes et les dépenses du système électrique calédonien. En revanche, la baisse du prix des carburants de 2,5% atténue la tendance. Sur un an, les prix de l'énergie ont tout de même progressé d'1,8%. Les produits manufacturés enregistrent eux aussi un rebond notable de plus 1,6% au mois d'octobre, bien que la tendance de ces 12 derniers mois soit sur une baisse de 3,4%. L'augmentation record du prix du ticket du bus, plus 23,4%, n'arrange pas non plus l'indice de la consommation, tout comme le service d'enlèvement des ordures ménagères dans le Grand Nouméa, qui retrouve son prix d'origine après un ajustement pour le second trimestre en raison des événements du 13 mai. Seuls les transports aériens internationaux et les loyers sont en baisse. Enfin, c'est plutôt stable côté alimentation, malgré la diminution importante du prix des légumes, moins 5,6%. Mais cette baisse est compensée par la hausse des produits céréaliers, surtout les produits sucrés, qui eux aussi sont désormais taxés. Après l'entrée en vigueur le 1er septembre de la loi Pays, sur un an, les prix de l'alimentation ont augmenté de 7,3%.
Justice, et entre 5 et 20 ans de réclusion criminelle pour les agresseurs d'un jeune à Dumbéa. Depuis 3 jours aux assises, les jurés se penchaient sur un procès de violence en réunion à Dumbéa. 3 personnes comparaissaient devant la cour d'assises des mineurs. Pour rappel, le 11 février 2022, ils ont passé à tabac un jeune qui venait de refuser de leur donner de l'argent devant un commerce à Dumbéa. La victime a été sévèrement blessée et plongée dans le coma. Le premier accusé écope d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle criminelle, soit plus lourde que les réquisitions de l'avocat général qui demandait 12 ans d'emprisonnement. Suivent 6 ans de prison pour le deuxième accusé, mineur au moment des faits, et 5 ans de prison pour la dernière personne. Un geste pour la bonne cause. Le Secours catholique et Nakupa Shop proposent une braderie solidaire en ligne. Il s'agit de vendre des matelas et des meubles de seconde main sur le site de Nakupa Shop. Cette initiative permet aux Calédoniens d'acheter des produits de qualité à prix avantageux pour soutenir les familles en situation de précarité. Les explications de Jean-Yves Lemenant, le président du Secours catholique.
Nous, on a une économie qui est basée sur le don. Donc, on nous donne quelque chose qui nous permet, une fois qu'il a été vendu, de le redonner à quelqu'un d'autre. C'est cette façon de fonctionner. Ça peut être très, très varié. On a, par exemple, des dons qui viennent des réformes de l'armée aussi, en grande quantité. Donc ça, l'armée nous donne du mobilier qui paie les maisons de leur personnel. Donc c'est du mobilier commun d'une maison. Hein. Alors lit, table, chaise, salon, fauteuil, canapé, etc. Les gens, à travers Internet, peuvent acheter du mobilier d'occasion qui nous ont eux-mêmes été donnés. Et bah, les produits de ces ventes vont permettre d'acheter, par exemple, des denrées alimentaires pour les redistribuer à ceux qui sont vraiment en détresse.
Pour les personnes intéressées, vous avez jusqu'au 23 novembre pour vous rendre sur le site de Nakupa Shop pour consulter les produits en vente. 18h13, deuxième et dernière pause dans ce journal avant de jeter un œil sur ce que nous réserve ce week-end côté festif et sportif.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Liana Colombo.
Place au programme festif et c'est un week-end riche en animations qui s'annonce. Ça commence dès ce soir à la place des Cocotiers, Charlotte Coulson.
Le kiosque à musique accueille depuis 17h30 un concert de musique pour fêter les 10 ans de l'association Droit au Vélo NC. C'est l'orchestre Un air de fanfare qui ambiance la place des Cocotiers. Et puis demain, au même endroit, l'association proposera une bourse au vélo et des ateliers écomobilité. On écoute les précisions de François Leborgne, coprésident de l'association Droit au Vélo Nouvelle-Calédonie.
Alors une bourse au vélo, c'est un endroit où on emmène des vélos d'occasion à vendre. Et puis n'importe qui peut venir les essayer et en acheter. C'est un marché d'occasion en fait. Hein. Donc ça permet de trouver des bonnes occasions. En général, les vélos sont quand même mis en vente à des prix tout à fait accessibles. On va dire que le prix moyen, c'est entre 10 et 15 000 francs. Le vélo proposera aussi aux vélos qui sont mis en vente un petit check-up pour que les personnes qui les achètent puissent acheter un vélo qui fonctionne bien. Donc là, si c'est des petites préparations, en fait, il y aura donc les bénévoles de l'association qui ont été formés à la mécanique vélo, qui seront là pour apprendre aux personnes qui mettent en vente leur vélo à le réparer, que ce soit remettre de l'huile sur la chaîne, ou régler les freins, regonfler les pneus, réparer les pneus crevés, enfin, toutes ces petites choses, en fait, qui sont faciles à faire. Donc on va apprendre aux personnes qui viendront vendre leur vélo à le faire. Et puis c'est aussi ouvert aux personnes qui n'ont pas forcément un vélo à vendre, mais qui ont envie de prendre des petites réparations à faire. Et puis il y aura également un professionnel qui sera là pour les choses plus pointu en termes de mécanique vélo.
Et rendez-vous donc demain à partir de 9h jusqu'à 15h sur la place des Cocotiers.
Et c'est la semaine européenne de la réduction des déchets qui débute demain à la Maison de la Biodiversité.
Un programme qui commence à 9h par des ateliers ludiques autour du déchet ainsi qu'une course au tri. Et puis dès 10h, les visiteurs pourront profiter d'une mini-exposition intitulée « Déchets de mon cadre de vie ». Rendez-vous donc à partir de 9h jusqu'à 17h à la Maison de la Biodiversité de Sainte-Marie.
Une sortie pour les littéraires maintenant, le Salon international du livre océanien se pose au parc forestier tout le week-end. L'entrée est libre et gratuite samedi à partir de 9h jusqu'à 16h. Mêmes horaires dimanche, mais l'entrée sera payante. Et dans un autre registre, le centre nautique calédonien propose demain matin son rendez-vous Puce Nautique 2024. Ça se passera dans le parking du CNC, juste à côté du restaurant Les Trois Mâts.
L'occasion pour vous de chiner le matériel qui vous manque pour améliorer votre bateau ou votre vie nautique. On écoute les précisions d'Olivier Jacquemet, le président du CNC.
Les puces nautiques, ça a lieu une fois par an. Et c'est l'occasion de faire des bonnes affaires dans tout ce qui a un lien avec la mer, que ce soit des propriétaires de bateaux à moteur comme de voiliers. Alors, on va retrouver de l'accastillage pour certains bateaux, mais ça va même plus largement des activités de loisirs. On trouve du matériel de pêche, on trouve des combinaisons de plongée, des palmes, des poulies, des chaînes, des cordages, du matériel, de l'outillage pour entretenir son bateau, des voiles. Enfin, c'est très large. Tout ce qui a un lien avec la mer, de près ou de loin, vous pouvez le trouver d'occasion, ou même certains du neuf qu'on peut en acheter. Et c'est souvent des bonnes affaires et ça fait des années que c'est un événement incontournable du CNC.
Et une sortie pour les... Un programme, je me suis emballé les pinceaux.
C'est, vous le disiez, les puces nautiques. Donc c'est à retrouver demain de 7h à 11h30 sur le parking du CNC, juste à côté du restaurant Les Trois Mâts. Et puis également à Moindou, enfin, l'association Marguerite propose un Calédonian Show au Fort Terimba, un spectacle qui remplace le traditionnel son et lumière. Le Fort Terimba vous accueillera à partir de 10h jusqu'à 15h30. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 44 32 71. Passons maintenant au sport avec du football et c'est encore la trêve internationale, donc il n'y a pas de match de Ligue 1, mais Jean-François Baudin, on suivra tout de même la dernière journée des phases de poule de la Ligue des Nations et les 128e de finale de la Coupe de France.
Oui, alors la Ligue des Nations d'abord avec la France qui affrontera l'Italie, ce sera lundi matin à 6h45, les deux équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale, mais évidemment celle qui terminera à première aura un adversaire plus abordable au prochain tour. Et puis en Coupe de France, c'est l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Et normalement, comme c'est le cas chaque année d'un club de Nouvelle-Calédonie, mais cette année, avec l'arrêt des championnats sur le territoire, il n'y aura pas de club calédonien.
En parlant de football calédonien, la sélection A de Nouvelle-Calédonie dispute ce week-end le dernier match des phases de poule de qualification à la Coupe du Monde.
Les Cagous sont déjà qualifiés pour les demi-finales de ce tournoi, puisqu'ils ont gagné leurs deux premières rencontres contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon. Les joueurs de Johan Sinader ne doivent toutefois pas perdre dimanche à 14h face aux Fidji s'ils veulent terminer en tête de leur poule et éviter ainsi la Nouvelle-Zélande au prochain tour.
On parle de rugby également avec là aussi la trêve internationale. La France continue sa tournée d'automne.
Oui, après avoir largement dominé le Japon 52-12 dimanche dernier, les joueurs de Fabien Galthié vont recevoir les All Blacks. Ce sera dimanche matin à 7h10. Antoine Dupont sera une nouvelle fois capitaine. Peato Maovaka sera titulaire, tout comme Yoram Moefana. A noter en revanche que Mathieu Jalibert, non retenu dans les 23, a quitté le rassemblement pour rejoindre son club, l'UBB. D'autres rencontres internationales sont au programme ce week-end. Irlande-Argentine demain à 7h10 et Angleterre-Afrique du Sud à 4h40 dans la nuit de samedi à dimanche.
Du tennis et la suite du Masters de Turin, les deux derniers matchs de poule cette nuit, puis les demi-finales et la grande finale.
Dans le groupe A, c'est le numéro 1 mondial Yannick Sinner et l'Américain Taylor Fritz qui sont qualifiés pour le dernier carré. Dans le groupe B, tout est encore possible pour Andrei Rublev, Casper Ruud, Carlos Alcaraz et Alexander Zverev. À minuit, l'Allemand vainqueur de ses deux premiers matchs sera opposé à l'Espagnol, qui est dans l'obligation de gagner s'il veut se qualifier. Casper Ruud affrontera lui Andrei Rublev, qui n'a eu qu'une infime chance de se qualifier.
Et on suivra au fil du week-end le Vendée Globe.
Oui, les 40 skippers se sont élancés lundi des Sables d'Olonne, une course autour du monde en solitaire et sans escale ni assistant sur une distance d'environ 24 000 nautiques.
Les sports mécaniques, pas de Formule 1 ce week-end, puisque le Grand Prix de Las Vegas aura lieu la semaine prochaine, mais il y a de la moto en Espagne.
Et ce sera à Barcelone et non pas à Valence comme c'était prévu. Un changement dû évidemment aux pluies dévastatrices qui sont tombées dans le sud de l'Espagne. Ce week-end, c'est le dernier Grand Prix de la saison et rien n'est encore fait en tête du championnat du monde. Rory Martin a un boulevard devant lui puisqu'il possède 24 points d'avance sur Francesco Bagnaia. Mais il reste 37 points à distribuer ce week-end. L'Espagnol pourrait donc être sacré dès la course sprint qui s'élancera à 1h dans la nuit de samedi à dimanche. Et pour s'imposer, il doit marquer 2 points de plus que l'Italien. La course principale s'élancera à minuit dans la nuit de dimanche à lundi.
Du karting en Australie dimanche, deux Calédoniens seront sur la piste.
Raphaël Gilles, 10 ans, et Luca Padovès, robot, 14 ans, se sont envolés aujourd'hui pour l'Australie. Les deux jeunes pilotes calédoniens vont participer dimanche à la manche finale du championnat de karting du New South Wales. une compétition qui regroupe près de 150 pilotes.
Du cyclisme sur le territoire avec le traditionnel Grand Prix Roger Larocque dimanche.
Une 53e édition organisée par le VCC Mondor et qui se tiendra à Ducos avec 54 inscrits. Les premiers s'élanceront, ce sont les jeunes des écoles de cyclisme dès 7h30. Ils seront ensuite suivis par les U15, les U17, puis les femmes et les hommes.
On part sur l'eau avec les championnats de Var.
La Ligue calédonienne de Var et de canoë-kayak organise demain les championnats de Calédonie longue distance hommes et dames, V3, K2, OC2. Plus d'une vingtaine d'équipages seront en lice sur un parcours de 15 km pour les dames et les jeunes et 20 km pour les hommes. La première course s'élancera dès 9h, la deuxième aux environs de 10h30.
Sport aquatique toujours, du surf à suivre également demain.
Bouraille accueillera en effet demain et dimanche les championnats de Nouvelle-Calédonie de surf, de shortboard, de longboard et de bodyboard. Les surfeurs démarrent déjà leur préparation pour les Jeux du Pacifique 2027 à Tahiti.
Et puis on termine cet agenda sportif du week-end avec de l'haltérophilie demain à Dumbéa.
Le Barbell Club organise la deuxième édition de la Coupe de Dumbéa. C'est demain à partir de 11h à la salle d'Auteuil. Compétition ouverte à tous les licenciés des clubs d'haltérophilie du territoire, adultes et enfants.
Merci Jean-François Baudin. 18h22, mais avant de refermer ce journal, cette dernière information, une bonne nouvelle même. Nous connaissons désormais le gagnant de notre grand jeu chance. Son SMS a été tiré au sort cet après-midi et cette personne, qui sera contactée par téléphone, a gagné un séjour de rêve à l'hôtel Cougnier Village de Yengen avec 5 nuits en bungalow premium vue mer, petit déjeuner et buffet pour 2 personnes. Un cadeau d'une valeur de 136 000 francs. Restez donc près de votre téléphone si vous avez tenté votre chance et restez aussi bien à l'écoute car dès demain nous vous proposerons un nouveau jeu chance. Et oui, car vous le savez, sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. Et Nicolas, pas de jeu pour vous, mais la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors c'est parti pour la météo, Nicolas.
C'est vrai qu'on n'a pas le droit de jouer, nous, hein, travaillant à Radio Rythme Bleu. Mais par contre, on a le droit de dire la météo. Alors cette nuit, sur l'ouest, les nuages dissiperont progressivement et le temps deviendra sec. Mais le ciel restera généralement voilé. Ailleurs, les averses persisteront et seront parfois modérées à localement fortes en début de nuit de Bélep au Loyauté, avec un risque orageux. Le vent de sud-est à est-sud-est soufflera autour de 10 nœuds sur le sud, 10 à 15 nœuds sur les Loyautés et le nord, voire 15 à 20 nœuds sur l'extrême nord avec des rafales sous certaines averses. Les températures minimales seront comprises entre 19 et 24 degrés. Demain matin, le ciel sera souvent nuageux. Sur la chaîne, le nord, l'est, les Loyautés et localement sur l'ouest, quelques averses produiront. Le vent d'est à est-sud-est atteindra 10 à 15 nœuds.
Merci beaucoup Nicolas pour la météo et la technique. C'est ainsi que se referme cette édition.